Messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans Estivalitude. Alors, est-ce un oiseau, est-ce un avion, est-ce un zeppelin, est-ce Supergirl, Superboy ou Superman réunis? Non, ce n'est qu'une émission, mais c'est déjà pas mal. Estivalitude, donc la petite boutique éphémère qui ouvre chaque jour sur France Inter de 9h à 10h. Et avec ceci...
C'est ouvert à tout le monde.
Tout le monde.
Tout le monde.
Ouais, tout le monde y sera.
Formidable.
Nathalie Dessay, vous fut une grande cantatrice, une étincelante soprano, jusqu'au jour où vous avez décidé de tout plaquer en 2013. Depuis lors, vous êtes devenue à la fois comédienne et vous êtes restée chanteuse pour le meilleur. Bonjour Nathalie Dessay.
Bonjour Christophe Pourceillet.
Maxime Le Forestier, vous êtes l'un de nos chanteurs français les plus connus. Comme le bon vin, vous vous bonifiez. Et vous venez de sortir un nouveau disque, Champêtre épuré, paraître ou ne pas être. Tout un programme. Bonjour Maxime Le Forestier.
Bonjour Christophe.
Ce matin, vous l'aurez compris, l'un chante et l'autre nous enchante. Magnéto Juliette.
France Inter. Estivalitude.
Qu'est-ce que ça veut dire ça encore?
Christophe Pourceillet.
Eh oui, on se demande ce que ça veut dire, mais on va finir par comprendre. Nathalie Dessay, vous connaissiez Maxime Le Forestier?
Oui, oui, on s'est déjà rencontrés. Et puis moi,
à quelle occasion?
Je sais pas, des plateaux télé, des trucs comme ça.
Oui, je me souviens d'un plateau avec Michel Legrand.
Voilà, absolument.
Particulièrement intéressant.
Et puis, Maxime Le Forestier est un de mes chanteurs préférés, donc c'est pour ça que j'ai
vous
accepté.
Dites ça parce qu'il est là ou
non,
vous êtes
sincère? Non, alors précisément, moi je dis plus rien que je ne pense pas, donc ça c'est...
Ah bah tant mieux.
Voilà.
C'est le jeu de la vérité ce matin.
Voilà, alors il y a par exemple Claude Nougaro, dont j'enregistre un album là en ce moment.
Ah oui, bon.
Mais il y a Maxime Le Forestier aussi, et ils sont pas si nombreux.
Avec un style très particulier, une musique très particulière.
Ouais, mais moi j'aime les poètes, donc voilà.
Maxime Le Forestier, vous écoutez du classique?
Ça m'arrive, oui.
Et vous aimez quoi?
J'aime Bach.
Ouais, Jean-Sébastien Bach.
Oui, moi aussi, c'est mon préféré. Bah,
qui n'aime pas Jean-Sébastien Bach fait que vraiment...
Si, il y a des gens qui n'aiment pas, mais moi ça me comble. J'avais un prof de solfège quand j'étais enfant qui s'appelait Yvonne Desportes. Et qui, quand elle parlait de Bach, disait « sublime machine à coudre ». Et c'est... Moi, ça me va.
Vous dites « passe ton Bach d'abord », mais évidemment, c'est un jeu de...
C'est intéressant, ça, oui.
Nathalie, ouais. Vous avez évidemment beaucoup collaboré avec Michel Legrand. On va écouter tout à l'heure le fruit de votre collaboration. Vous écoutez quoi comme musique aujourd'hui? C'est quoi les musiques de Nathalie Dessay?
Alors,
en 2019
beaucoup de jazz.
Ouais.
Pas mal de chansons. Chansons françaises. Mais aussi chansons américaines, et un peu de classique, mais pas beaucoup.
Ah oui, le classique, ça vous a...
Non, c'est-à-dire que j'écoute beaucoup de piano, par exemple.
Ouais,
j'aime le piano.
Ah oui. Quel est votre pianiste préféré?
Oh, il y en a plein, mais disons qu'il y a Daniil Trifonov que j'aime beaucoup.
Ah oui, Daniil Trifonov,
par exemple.
Oui.
Mais il y en a d'autres, il y a Yuja Wang aussi.
Ah oui, grand chinois. On a compris ce qui vous relie, Nathalie et Maxime, c'est donc évidemment la musique. Alors Nathalie, j'ai reçu il y a quelques jours, ici même sur France Inter, le judoka Thierry Rey, et il m'expliquait qu'un judoka est forcé de prendre sa retraite à l'âge de 25 ans. Ça fait quand même très tôt pour prendre sa retraite. Votre décision d'arrêter le chant lyrique, elle était liée à la maturité ou au fait que vous étiez conscient du fait qu'à partir d'un certain âge, la voix décroît?
Il y a plusieurs choses. J'ai arrêté à l'âge de 48 ans, mais je savais à 20 ans quand j'ai commencé que j'arrêterais à cet âge-là à peu près.
Ouais.
Parce que les rôles dévolus à cette voix de soprano léger sont toujours les mêmes, à savoir les jeunes premières et les soubrettes.
Évidemment.
Donc
ouais.
Au bout d'un certain
Vous étiez
moment,
soprano, on disait soprano colorature.
Oui, en fait.
Parce que vous alliez dans les aigus.
Oui, mais colorature, ça veut dire agile. Or, toutes les voix doivent être agiles. Donc je préfère dire soprano léger parce que c'est plus une question de couleur et de volume. Disons.
Alors, ouais. Il y a eu, je crois que comme tous les chanteurs, il vous est arrivé vers la fin de perdre votre voix.
Oui, non, pas vers la fin, au milieu.
Ouais. Et vous l'interprétiez comme un signe du destin?
Oui, enfin, c'est-à-dire que je vivais comme ça, très écartelée entre le fait d'être tout le temps partie et puis d'avoir des enfants que je voyais pas beaucoup. Et donc, c'était compliqué à gérer. Donc,
et puis,
pense que j'ai trouvé ce moyen pour rester à la maison pendant un moment.
Et puis, il faut dire, Maxime Le Forestier, la vie de chanteuse d'opéra, c'est épouvantable parce que c'est un travail hallucinant. Ce qu'on obtient, c'est ces voix d'or, ces voix extraordinaires. Et en même temps, vous êtes face à un public qui est parfois d'une violence, d'une cruauté, mais absolument implacable. Je voudrais juste vous le dire. Vous voyez, j'ai trouvé une critique critique de Michel Parouti dans leur vie opéra en 2012 qui dit « La voix a perdu de son brillant, le suraigu a durci, quelques notes graves peinent à se faire entendre. » Après tout le mal que vous vous êtes donné, est-ce qu'il n'y a pas là une forme d'injustice ?
Je sais pas. Oui, probablement.
Ça vous atteint, ces remarques
mais je les lisais pas, donc,
vous les lisiez pas?
Non, non, je ne les lisais pas. J'étais mon meilleur critique, en fait, et surtout le plus implacable. Donc,
On se souvient de vous dans plein d'airs d'opéra, mais alors moi j'ai retenu la Traviata, et je vous propose un petit extrait comme ça qui date de 2014. En 2014, vous étiez encore quand même très, très en forme.
Mais c'était pas en 2014, hein. Ça.
C'est non, pas non. 2014
Non, non, ça doit être en 11.
C'est en 11. Ouais. Alors, c'était donc un extrait de la Traviata, bien sûr. Vous étiez accompagné par l'orchestre de Cologne sous la direction d'Evelino Pido, c'est ça?
Oui, probablement. C'était peut-être même en 12, j'en sais rien. Ouais. Mais en tout cas, puisque j'ai plus chanté d'opéra après 2013.
Ouais. Maxime Leforestier, il est dur, le milieu de la musique. Vous avez réussi à surnager. Vous avez une carrière magnifique. Ça démarre en 1972 jusqu'à aujourd'hui. Comment vous jugez-vous le milieu de la musique?
Oh, il y en a plusieurs déjà, il y a plusieurs familles.
Ouais, Il y a le milieu de la musique classique, sur lequel
la musique classique est épouvantablement
Nathalie n'est
dur,
pas toujours très tendre d'ailleurs, hein, il me semble, Nathalie.
Oui, mais c'est de bonne guerre.
Ah ben, c'est normal, bien sûr. Voilà.
Le milieu de la musique, c'est un milieu de concours, ça commence de bonne heure. Le milieu de la variété, comme on dit, c'est une question de chiffres. Vous avez remarqué que dans une radio, quand on cite un chanteur, on dit combien de millions de disques il a vendu.
Voilà,
toujours.
Voilà. Ce n'est qu'un problème de calcul, c'est de l'arithmétique.
Moi, je préfère faire partie de la famille des auteurs-compositeurs. Je fréquente Souchon, je fréquente Cabrel, je fréquente des gens qui font le même métier que moi, et je me fous un peu du reste.
Nathalie, bien qu'ayant arrêté de chanter, vous continuez à chanter. C'est un peu le paradoxe de Nathalie Dessay.
Je continue à chanter de la musique classique aussi.
Oui,
parce que je fais les récitals de Lieder et mélodies avec Philippe Cassard.
Grand pianiste qu'on aime beaucoup.
Et je continue à chanter aussi. J'explore la chanson, la comédie musicale. Et d'ailleurs, je prends maintenant des cours de chant. Pour désapprendre et réapprendre autre chose.
Ah oui, pour c'est-à-dire désapprendre.
Parce que par exemple, pour chanter de la comédie musicale, c'est toute une autre technique. Et c'est très compliqué, quand on a été élevé dans la gorge ouverte et la projection, d'arriver à justement chanter gorge fermée et beaucoup plus, de manière beaucoup plus intime pour les micros. Ça nécessite des années de réapprentissage.
Alors, j'ai vu que il y a une scène à Paris qui s'est ouverte, la scène musicale, qui vous offre ce qu'elle appelle une scène libre, c'est-à-dire une carte blanche en réalité. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a exactement dans cette carte blanche?
Mais ce qu'on veut précisément. Moi j'ai commencé par un concert avec Big Band et trois chanteurs.
Ouais.
Ensuite, j'ai fait un concert classique avec Philippe Cassard, avec du Schubert, du Wolf et de la Mélodie française.
Magnifique.
En troisième date, il y aura du cirque.
Je
ne fais pas vraiment du cirque, mais disons que j'aime beaucoup le cirque. Je suis marraine de l'école de cirque à Rosny-sous-Bois et j'ai même un fil dans mon jardin. Qu'il faudrait d'ailleurs que...
Ah, vous êtes funambule.
Oui, un peu. Et puis j'ai fait un peu de trapèze et des choses ça, donc j'aime beaucoup ça. Et donc je vais présenter un groupe de cirque qui s'appelle l'Envolée Cirque et qui travaille sur du fil mou. Ensuite, en quatrième date, il y aura un travail avec un jeune octet de jazz qui s'appelle le Zoot Octet, et où je vais incarner Pannonica de Königswarter, qui était une descendante des Rothschild et qui avait tout plaqué à un moment dans les années 50 pour suivre les jazzmen de la scène new-yorkaise. Et elle est notamment connue parce que Charlie Parker est mort chez elle.
Ah oui.
Et elle a été l'amie de Monk pendant 30 ans. Et elle l'a hébergée, elle l'a aidée, elle a été un peu une, à la fois une muse et une mécène pour toute cette clique.
Alors, Maxime Le Forestier, votre dernier album, qui est, si j'ai bien compté, le 17e. Ai-je bien compté? C'est bien le 17e?
Non, vous en avez mis un de trop.
Alors, c'est le 16e. Vous savez, je vois pas clair. Hein. Oui. Donc, le 16e se nomme « Paraître ou ne pas être », et en voici un extrait.
Ça commence par un coup de bol. On arrive, on connaît personne. On tombe sur des gens sympas qui nous aiment déjà. Ça commence par du pas mal, des filles en blouse d'hôpital, un cordon qui nous relie à la femme de notre vie. C'est comme un drôle de cadeau, un chef-d'œuvre qu'on lit sans en comprendre un mot. Va savoir quand elle nous quitte, l'insouciance. Va trouver la date limite de l'enfance. Ça part souvent plutôt bien, le foot avec les copains, tous ces jours qui s'additionnent sans pleurer personne. Les quatre accords qu'on répète sur une guitare qu'on nous prête. Chaque photo qui nous sourit, c'est la femme de notre vie. On sait pas trop ce que ça vaut. L'enfance est un jardin qu'on visite un peu tôt. Va savoir quand elle nous quitte, l'insouciance. Va trouver la date limite de l'enfance. Surtout qu'avec les années, elle a tendance s'effacer.
Un titre extrait de votre dernier disque, Maxime Le Forestier, c'était Date Limite dans Estivalitude sur France Inter. La date limite, c'est un peu la date de péremption d'un individu?
Tout à fait, oui. Enfin, là, c'est la date limite de l'enfance. Le problème, c'est que quand on avance en âge, on voit moins bien et que donc on n'arrive pas à la lire.
Moi, je me souviens de quelqu'un avec qui je travaillais il y a des années, qui m'avait posé la question, c'était il y a 3-4 ans, je précise, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Est-ce que c'est pas un peu ça, finalement? Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas toujours un enfant, Maxime Le Forestier?
Oui, je me souviens de mon oncle Peter, qui est mort l'année dernière à 100 ans, et qui m'a dit avant de mourir, je me demande s'il est bien raisonnable pour un homme de passer sa vie à chanter des chansons.
C'est vrai, d'ailleurs, est-ce bien raisonnable? Nathalie Dessay consacrait sa vie à la chanson, ça vous fait rire, ça, hein? Ça y est, elle craque.
Ça, c'est génial.
Ah oui, est-ce bien raisonnable? J'ai deux fous dans ce studio, alors.
Ah oui, mais ça, c'est extra. J'adore cette phrase.
Alors, il y a une question qui vous taraude, Maxime Le Forestier, qui est très émouvante. Il y a l'idée de sortir de l'enfance. Très jolie réplique. Va savoir quand elle nous quitte l'insouciance. Va trouver la date limite de l'enfance. Et puis, il y a une chanson. Alors là, c'est sur la question du vieillissement. Ceux qui ne savent plus être des enfants, c'est la vieille dame. Hier, elle allait les seins à l'air. Aujourd'hui, elle a peur des voyous. C'est qui cette vieille dame que vous évoquez dans votre disque?
Ah bah c'est la France telle que je la voyais il y a 2 ans, oui. Et je la vois toujours un peu comme ça. C'est intéressant parce que j'ai écrit ça pendant la campagne présidentielle. Ils disaient tous, faut réformer. Et je me disais, mais chaque réforme qu'on va faire, qui est sans doute indispensable, va faire très mal à une catégorie de population. Ça s'appelle un peu l'ankylose, ça. Et puis, il y avait des gens comme... Il y a plein de gens qui regrettent le joli temps passé. Mais lequel ?
Vous êtes nostalgique du
pas
temps
du
passé ?
Tout. Ah, pas du
Et
tout.
Et vous, Nathalie, le temps passé, vous regrettez vos 20 ans ? Vous regrettez cette époque ?
Non, moi, je regrette jamais en arrière.
Ouais. Pourquoi votre disque s'appelle-t-il, Maxime, « Paraître ou ne pas être » ?
Je donne toujours à mes albums les titres d'une chanson qui figure dessus et c'était le seul titre qui allait. Oui, j'avais pas appelé ce disque le Grand Connard ni.
Ah, le Grand Connard, je voudrais savoir que vous me dites. J'aimerais bien savoir qui c'est.
Ah, mais c'est pas.
Est-ce une chanson à clé?
Non. C'est bon, on en a tous rencontré plusieurs.
J'en connais énormément. Je peux vous faire une liste.
Il faut organiser le concours. Hein. Quel est le plus grand connard que la Terre ait jamais porté? Le concours n'a pas encore eu lieu. Il n'y a que des candidats.
Mais je pense qu'il y aura du monde au podium.
J'espère.
Ouais, on est bien d'accord. Paraître ou ne pas être, c'est parce qu'aujourd'hui on est obligé de paraître.
Oui,
enfin, on est sommé de paraître comme vous paraissez sur France Inter ce matin. Est-ce
tout
que
à fait, oui.
Avec
tout
Nathalie.
Enfin, c'est l'existence médiatique. Mais au départ, mon idée de départ, que vous savez, les chansons, ça vous mène un peu n'importe où. C'était est-ce qu'un livre qui est écrit mais qui n'est pas imprimé, est-ce qu'il existe? Et vous voyez où ça m'a mené.
Mais on parle parfois de grands écrivains en disant, alors c'est une formule un peu étrange, on dit c'est un écrivain sans œuvre. Moi j'ai beaucoup de sympathie pour les écrivains sans œuvre qui pourraient écrire, mais qui ne l'ont pas fait. Alors Maxime, vous avez démarré en 1972 avec l'album Mon Frère, vous me dites si je me trompe. Hein. J'aimerais bien qu'on entende trois de vos plus grands tubes.
C'est une maison bleue. Accroché à ma mémoire, on y vient à pied, on ne frappe pas ceux qui vivent là pour jeter la clé. Peuplé de cheveux longs, de grands lits et de musique, peuplé de lumière et peuplé de fous, elle sera dernière à rester debout. Si San Francisco s'effondre, si San Francisco s'effondre, San Francisco. Comme les grands espoirs qui croient à ça. Comme les grands espoirs qui croient à ça. Est-ce que les gens naissent égaux en droit à l'endroit où ma route. T'as vu celle tracée, passée entre les gouttes et va les belles.
Alors on a entendu successivement San Francisco avec la fameuse Maison Bleue qui n'est pas l'UMP, hein, je précise parce qu'on en a beaucoup parlé, donc en 1972, puis Née quelque part en 1988, enfin Passer ma route en 1994. Trois époques, la difficulté de se renouveler, la difficulté de rester sincère, Maxime ?
Oui, c'est une difficulté, surtout que j'écris pas quand je chante. Quand je suis en tournée, j'écris pas. Donc, quand j'ai fini ma tournée, il faut que je réapprenne comment écrire des chansons. Et c'est, pour moi, la plus grande difficulté, elle est là. De réapprendre ce qu'on sait déjà.
Nathalie Dessay, ça vous rappelle des souvenirs quand vous écoutez La Maison Bleue, San Francisco?
Oui, moi,
vous avez fréquenté les hippies?
Non, parce que c'était déjà passé, moi. Ouais,
vous n'avez pas été punk non plus, alors?
Ni punk,
ah, c'est
ni
dommage,
hippie,
ça.
Non. En fait, moi, j'ai été sage toute ma vie.
Vous étiez trop sage.
Ouais, oui.
Et vous avez fait votre révolte après coup, finalement, c'est aujourd'hui que vous êtes une ado. J'ai un enfant dans le studio, c'est Maxime Le Forestier, et une ado, Nathalie Dessay. Alors, vous savez que Nathalie, ce qui est génial avec vous, c'est que vous avez fait plein de choses depuis cette libération de 2013, on pourrait dire.
Depuis la sortie du Carmel, oui.
Ben oui. Vous avez même fait de la radio. Alors, à France Musique, je me souviens, mais aussi sur France Inter en 2014-2015, l'émission s'appelait Classique avec Dessay.
classique avec deux C. Une émission préparée avec la complicité de Philippe Cassard et d'Elsa Rook, assistée de Camille Poux-Jalaguier, réalisée par Anne Weinfeld.
Un beau souvenir, ça.
Ah oui, moi j'ai adoré parler dans le poste. Je voulais faire toujours ça dans ma vie. Simplement, c'est un travail énorme.
Ah ben, à qui le dites-vous?
Voilà. Alors justement,
toute l'équipe d'Estivalitude vous remercie.
Voilà, c'est un travail absolument titanesque.
Ah bah oui.
Et voilà. Et il faut faire que ça si on veut avoir une chance de survivre. Donc, c'était pas mon cas. Donc, alors, je suis presque morte cette année.
Écoutez, manifestement, vous êtes encore quand même assez en forme. Il y a eu aussi dans votre histoire une belle histoire, une histoire d'amitié avec Michel Legrand.
Ah, ça, c'est une rencontre inouïe, ouais. En fait. Et je pense que c'est lui qui m'a donné ce goût de la liberté, en fait.
Eh ben, on va écouter Nathalie Conseil de la Fée Lila, ouais. Un titre originellement extrait du film, bien sûr, Peau d'âne de Jacques Demy, sur une musique de Michel Legrand.
La situation mérite attention. Mon enfant, on n'épouse jamais ses parents. Vous aimez votre père, je comprends. Quelles que soient vos raisons, quels que soient pour lui vos sentiments, mon enfant, on n'épouse pas plus sa maman. On dit que traditionnellement, des questions de culture et de législature décidèrent en leur temps qu'on ne mariait pas les filles avec leur papa. Une bergère peuvent bien s'accorder quelquefois, mais une fille et son père, c'est ma foi, un échec assuré, une progéniture altérée. Mon enfant, il vous faut oublier à présent ces fantasmes démoralisants, et vous rencontrerez un charmant vanipier ou un prince mendiant. Mais de grâce, oubliez cet hymen insensé. Mon enfant, la vie vous offrira ses présents, mais il vous faudra auparavant vous conformer au plan que j'ai conçu pour vous savamment. Mon enfant, ne craignez pas les égarements, je vais vous éclairer brillamment, je vais vous protéger, j'ai pour vous par mes soins un chemin tout tracé. Mais de grâce, écoutez, j'ai tout manigancé.
Conseil de la Fée Lila, c'était Nathalie Dessay, bien sûr, sur une musique de Michel Legrand, un extrait de l'album Entre elle et lui, sorti en 2013.
Ah, laisse-moi bien savoir si elles ont été brûlées, ces lettres. Et si vous allez pouvoir continuer à mentir tranquillement.
Je ne peux pas croire que vous les ayez détruites.
Elles concentrent toute votre angoisse, ces lettres.
C'est vrai que cette soirée, je la trouve assez gênante.
Vous avez un pouvoir sur les gens.
N'exagérez pas. Je ne suis rien de plus qu'un fantôme du passé.
Tu peux échapper au pire.
Impossible. Je ne peux pas m'arracher ce visage qu'est le sien.
Non, Hermann Burstein. Les lettres n'ont pas été brûlées, je les ai encore.
Tu comptes échapper à tes obligations? Et tu veux garder son nom? Ce nom célèbre, ça oui. Mais ni l'esprit qui l'anime, ni le devoir et le sacrifice qu'il a...
Arrête, maman! Arrête!
Ah, oh, ça crie, dites donc. Alors,
oh,
Nathalie,
ça, drôlement, oui.
Ça, c'est une pièce de théâtre, La légende d'une vie de Stefan Zweig, que vous jouez en ce moment.
Oui, on la reprend dans les festivals d'été.
Alors, racontez-nous, c'est une pièce qui a été donc créée à Paris, enfin, même en province.
Oui, elle a d'abord été créée en province.
Mise en scène de Christophe Lidon. Hein.
Oui, mise en scène de Christophe Lidon avec Macha Merrill, Bernard Allan, Valentine Gallet, Gaël Giraudeau. Et donc, moi, je ne savais pas que Stefan Zweig avait écrit des pièces. Il en a écrit 5 ou 6, mais c'est pas un aussi grand dramaturge qu'un écrivain, disons, de prose et de romans ou de nouvelles. Mais Mais c'est quand même intéressant parce que c'est la crise d'une famille, c'est l'histoire d'un secret.
Oui, c'est ça. Vous incarnez la veuve d'un poète adulé. Voilà. Vous avez transformé sa maison en mausolée à la gloire du poète. Et là-dessus, vous voyez débarquer une femme, Macha Merrill.
Voilà.
L'autre.
Passée.
Celle dont on ne voulait pas parler.
Voilà. Et dont on sait qu'elle va révéler une certaine vérité dont on n'a pas envie.
Maxime Le Forestier, vous allez au théâtre parfois.
Ça m'arrive, oui.
Ouais.
Oui.
On a l'impression que vous sortez pas de chez vous. Vous êtes dans la campagne, là-bas. Là, vous êtes, je sais plus où c'est, mais enfin, quelque part où vous avez l'air très beau et très paisible. Vous écrivez au calme, mais ça vous arrive de vous promener dans les villes?
Oui, la dernière fois que je suis allé au théâtre, c'était dans un bistrot, à Montmartre, et c'était pour voir Jacques Weber, dans son texte sur Victor Hugo.
Ah bah, c'est pas mal.
C'était extraordinaire.
Ah, ouais. Ouais. Nathalie, qu'est-ce qui distingue le plaisir au théâtre de celui qu'on éprouve à l'opéra?
Bah, c'est-à-dire qu'à l'opéra, c'est tellement compliqué d'arriver à tout gérer. Et en plus, il faut être dans une espèce de perfection vocale.
Oui, c'est ça.
Bon, moi, ça me fatigue.
Alors qu'au théâtre, la justesse vient de l'imperfection.
C'est-à-dire qu'au théâtre, oui, on n'est pas du tout... Oui, c'est très très joli.
Magnifique.
Je répète pourquoi. Non, mais le plaisir est tout différent parce qu'il s'agit d'être dans l'instant. Et c'est ça qui me plaît.
Au départ, j'ai lu que vous vouliez être comédienne.
Oui, oui. Au tout départ, c'était ça que je voulais.
Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas devenue comédienne? Pourquoi êtes-vous devenue chanteuse?
Parce qu'ils n'ont pas voulu de moi, à l'époque.
Allez, le milieu du théâtre vous a rejeté?
Non, c'est pas ça, mais je voulais aller sur scène le plus vite possible et le plus sûrement possible. Donc c'est grâce à la voix chantée que c'était plus certain pour moi de monter sur scène.
Et vous, Maxime Le Forestier, chanteur, c'est une vocation qui vous est venue tout de suite?
Tout de suite, oui.
Vous dites, j'ai été connu très jeune et j'ai fait assez vite le tour de la situation de vedette.
Tout à fait, oui.
Ouais. Mais quoi, c'est à quel âge vous avez décidé d'être chanteur?
Oh, je pense que c'est à 16 ans, oui. Quand je me suis fait virer du lycée, je me suis dit, bon, fuck les études, je me débrouillerai tout seul.
Nathalie, quand on est chanteuse d'opéra, on est un peu une diva. Les gens vous adulent, il y a une espèce de respect qui se forme. Vous avez une cour d'aficionados de l'opéra qui vous entoure. Quand on abandonne cet univers-là, on a un peu le sentiment de déchoir.
Non, c'est pas ça, mais moi je vis ça vraiment comme une libération, en fait. Mais toute liberté se paye. Donc effectivement, il y a des inconvénients.
Alors,
mais je ne regrette pas.
Nathalie, vous avez une question pour Maxime Le Forestier, mais vous n'avez pas voulu me la dire avant.
Non.
Alors, allez-y.
Alors, voilà, je voudrais savoir si Maxime Le Forestier voudrait bien m'écrire une chanson.
Ah, alors attention là.
Ah, mais...
Là, vous pouvez pas dire non. Mais...
Je peux pas dire non.
Ah, vous pouvez toujours essayer.
C'est un de mes fantasmes d'écrire une chanson un jour pour une grande voix. Je vous la promets pas pour la semaine prochaine.
Non, non, mais on a le temps.
Mais je vais y penser.
D'accord.
Disons fin août.
Oui, c'est ça. Non, mais il faut qu'on en parle.
Ah non,
c'est une très jolie idée parce
c'est
que
compliqué
ça pourrait...
parce que ouais. C'est des possibilités énormes.
Vous avez déjà écrit pour des chanteurs autres que vous-même?
Oui, oui, oui.
Pour qui?
J'ai écrit pour Céline Dion. J'ai écrit beaucoup pour Julien Clerc. J'ai écrit pour Johnny Hallyday. J'ai écrit pour.
Bon, alors si vous avez écrit pour Johnny Hallyday, vous pouvez quand même écrire pour Nathalie Dessay.
Oh non, Nathalie Dessay a des possibilités vocales bien supérieures.
Oui, mais maintenant ouais. je chante doucement, vous savez.
Ah, vous
doucement
voulez une
et
chanson
grave.
Douce.
Oui, oui, doucement et grave.
Alors justement,
je vais vous écrire une chanson douce, ça je sais faire.
Mais justement, Maxime, vous avez aussi une question à poser à Nathalie qui concerne sa voix.
Non, ça concerne pas sa voix.
Ah bon,
moi, je voulais lui demander d'où vient la voix.
Moi, je me dis toujours que si j'ai chanté et si fort, sans micro, pendant si longtemps, c'était peut-être parce que j'avais l'impression qu'on ne m'écoutait pas quand je parlais. Donc voilà, à voir et à méditer. Mais effectivement...
La voix vient d'un manque, alors.
Oui, oui, je pense.
D'accord.
Pense.
Nathalie, vous dites que votre actrice favorite, c'est Meryl Streep.
Oui. Oui, parce qu'elle peut se transformer. Parce que, un, elle sait tout faire.
Ouais.
Et elle peut se transformer complètement. Transformer sa voix, transformer son visage, transformer son corps. Être aussi... incroyablement convaincante dans le drame que dans la comédie. Il y a une espèce de recherche absolue dans son travail qui me fascine.
Ouais. Et vous êtes tentée par la mise en scène ?
Pas du tout.
Non, vous restez fondamentalement une interprète,
profondément.
Chanteuse ou comédienne.
Oui.
Et vous, Maxime, vous aimeriez sortir de la chanson, vous aventurer sur d'autres terres ?
Je sais malheureusement rien faire d'autre, donc j'aimerais, j'ai essayé, mais non, c'est décidément dans les chansons douces que je m'exprime le mieux.
Christophe Bourseiller, Estivalitude, sur France Inter.
Every thought that I ignore, and all the questions at my door, is when we begin to believe in this again. Can we believe? Can we believe? I walk down the street with shadows at my feet and words in my head, songs left unsaid. Do you know how we got here? You know how we got here. I drank to clear my throat, not to eat the words you wrote. I've said these words before. Fail this break, close that door. Are you a stranger? Are you a stranger? Everything that you wrote sticks inside, chokes my throat. Do I think way too much? Are we running out of luck? Find its way out of the mud, where the people at the top lose their way enough to stop. Can we begin again? Can we begin again? Can we begin again? Can we begin again?
C'était un petit peu pour vous, Nathalie Dessay, c'était Norah Jones, Begin Again. Il faut savoir que Norah Jones, comme son nom ne l'indique pas, est la fille du grand joueur de sitar indien Ravi Shankar. Une programmation ombrelle et ventilateur, bien sûr, de Muriel Pérez. Alors Maxime, Laurent Geoffrin, dans Libération, vous savez que vous avez eu des grands articles avec votre à propos de votre disque paraître ou ne pas être. Laurent Geoffrin dit politiquement, il est né quelque part à gauche. Après 50 ans de carrière, il n'a guère changé. Vous êtes toujours un homme engagé ?
Engagé, non, non, non. Engagé, ça veut dire militant, et militant, ça veut dire que je veux persuader les autres que j'ai raison. Donc, c'est... non, non, moi, je pose des questions, surtout. Oui, j'ai pas trop changé par rapport à mes idées de jeunesse. Ce qui a changé, c'est peut-être la gauche.
La gauche vous a déçu, hein?
Bah oui, forcément.
Ouais. Pourquoi?
Parce qu'on espérait beaucoup. Non, en fait, j'ai tort de dire que la gauche m'a déçu. Moi, j'ai voté Mitterrand en 81 parce que Manseron m'avait dit, je te promets que s'il est élu, on abolit la peine de mort.
Bah, il l'a fait.
Il l'a fait, donc je j'attendais rien d'autre.
Ouais, ouais. Mais enfin, vous dites quand même, quand je contemple la gauche, je dis dommage.
Oui, oui, ils sont passés à côté de quelque chose de beau.
Nathalie Dessay, vous parlez jamais beaucoup politique, hein. Mais
moi aussi,
vous êtes de gauche, de droite, au centre.
Moi, je suis profondément de gauche.
Profondément de gauche.
En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je me dis toujours que je suis pour la solidarité, pour que les riches payent pour aider ceux qui ont moins. En gros, c'est ça, être de gauche pour moi.
Ouais.
Après, est-ce que je me reconnais dans un courant politique? Ça, c'est pas sûr.
Vous êtes heureux, là, par exemple, dans le monde nouveau d'Emmanuel Macron, Maxime Le Forestier?
Pas spécialement, non, mais ça... j'espère qu'il va s'en sortir, parce que s'il s'en sort pas, c'est Le Pen.
Mais la gauche, elle se reconstruit aujourd'hui avec plein de petits clubs. Là, vous êtes tenté par l'un de ces clubs ou c'est finalement vous dites, il vaut mieux soutenir Macron en 2019?
Ah bah, s'il faut voter entre Macron et Le Pen, évidemment, je vote Macron.
Oui. Et vous, Nathalie?
Bah oui, on n'a pas le choix.
Vous n'avez pas le choix, mais c'est du dépit amoureux ou c'est...
Oui, oui, bien sûr. Mais en même temps, moi, je trouve que ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est l'écologie. C'est de lutter contre le réchauffement climatique, et c'est de ça dont il faudrait s'occuper avant.
Et ça, c'est un point commun que vous avez avec Maxime Le Forestier, parce qu'il y a une chanson dans votre disque, Ça déborde, qui est vraiment un cri d'alarme contre, justement, sur les nuisances climatique.
Tout à fait, oui. Mais ce qui a changé par rapport à Comme un arbre, qui était il y a presque 50 ans, c'est que maintenant, les gens ricanent plus quand on parle d'écologie.
Oui, évidemment, c'est positif. Nathalie, vous avez signé une pétition en faveur du chef d'orchestre Marc Minkowski.
Oui.
Pourquoi?
Oui.
Pourquoi?
Parce que je trouve que c'est...
Il faut expliquer ce qui lui est arrivé.
Oui, oui, alors,
il a été accusé de harcèlement, c'est ça, hein?
Plus ou moins. Enfin, il y a une partie de l'orchestre qui a décidé
de
Bordeaux, se mettre contre lui.
L'orchestre,
voilà,
de Bordeaux-Aquitaine. Voilà.
Et bon, Marc, non seulement c'est un ami, mais en plus, moi, j'ai travaillé avec lui et j'ai adoré travailler avec lui. C'est un merveilleux musicien. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup d'enthousiasme, qui est très passionné, donc que ça plaise pas à certains qui sont plus tièdes probablement, ou je sais pas, ou qui veulent pas travailler, ou j'en sais rien.
La question du harcèlement aujourd'hui, elle revient de façon
récurrente. Oui, mais c'est un peu mis à toutes les sauces aussi. Bon,
qu'est-ce que vous en pensez?
Bah, c'est-à-dire que quelqu'un qui veut travailler et qui est un peu vindicatif dans ses demandes et dans sa passion est un harceleur, alors il n'y a plus rien à faire, quoi.
On parlait là plus à propos de Minkowski, de harcèlement moral, on pourrait dire, au travail,
oui,
que de harcèlement sexuel.
Non, non,
hein.
C'est pas du harcèlement sexuel.
Il faut préciser
sexuel.
Ça.
Non, non, non,
il faut préciser ça. Vous êtes plutôt du genre à venir comme ça au secours de ceux qui sont pourchassés?
Bah, c'est-à-dire que moi, je suis fidèle. Je suis fidèle quoi qu'il arrive. Donc, quand un ami a besoin de moi, je suis là.
Alors, Nathalie, c'est le moment où je vous demande le son qui vous résume. Alors, le son qui vous résume, écoutez bien, c'est ça.
I have a dream.
Je fais un rêve.
That one day,
qu'un jour,
this nation will
cette nation se lèvera pour vivre le vrai sens de cette croyance. Nous tenons ces vérités comme allant de soi, que tous les hommes naissent égaux.
Alors c'est qui, Nathalie, c'est qui?
Mais qui c'est?
Mais enfin, qui peut c'être?
C'est Martin Luther King, bien sûr.
Ouais, le fameux discours « I have a dream » de Martin Luther King. Pourquoi?
Parce que j'admire les hommes qui s'engagent, les hommes et les femmes, hein, qui s'engagent à ce point pour une cause dans laquelle ils croient, jusqu'à la mort, quoi, en gros.
Ouais.
Et qui défendent leurs idées, et qui meurent de mort violente, hélas.
Ouais. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qui vous révolte aujourd'hui?
tellement de choses.
Mais encore.
Ben justement, les inégalités, le fait que tout le monde s'en fout de mettre la planète à feu et à sang, que tout le monde se fout de son voisin qui réclame juste le droit de vivre décemment, et qu'il y a une espèce de course en avant, de fuite en avant et d'égoïsme forcené.
Voilà, Maxime Le Forestier, il y a 50 ans, ou un peu moins peut-être, enfin je me réfère un peu à 68, quand on venait de dire la planète est en danger, on était un babacool, vous étiez d'ailleurs considéré comme un chanteur babacool.
Babacool, c'est arrivé un peu plus tard.
Oui, mais enfin c'était l'idée, un écolo, c'était, vous savez, les hippies du Larzac, on était dans cette, vous étiez très minoritaire au fond. Quel effet ça fait de se dire, c'est dingue, ce qu'on disait il y a 50 ans dans nos chansons, on vous étiquetait chanteur contestataire. Et ça vous énervait d'ailleurs.
Célèbre chanteur contestataire.
Le célèbre chanteur, j'ai la chance ce matin sur France Inter de recevoir le célèbre chanteur contestataire.
Oui, oui, tout à fait. Bah, c'était un argument de vente. Mais dès que j'ai vu ça sur une affiche, j'ai arrêté de chanter toutes les chansons polémiques que j'avais à mon répertoire, du parachutisme, je m'en fous de la France, tout ça, je les ai virées immédiatement.
Quand vous disiez contestataire, vous avez vécu le rêve hippie, vous avez vécu en communauté, vous avez...
Pas du tout. Si, la seule communauté dans laquelle j'ai vécu, c'est la Maison Bleue, ça a duré quelques semaines. Mais après, non.
Donc la Maison Bleue a existé alors à San Francisco. C'était pas juste une chanson.
Tout à fait. Il reste quelques survivants qui ont survécu aux overdoses et au SIDA. Mais non. Moi, j'étais le chanteur de cette tendance. Mais je bossais tout le temps. Moi, j'étais sur la route avec les musiciens et je faisais 1, 2, voire 3 concerts par jour. Donc j'étais pas du tout communautaire.
Vous vous identifiez à Bob Dylan, Donovan, toute cette mouvance de chanteurs anglo-américains?
Pas du tout, non. Pas du tout.
Vos racines, c'est quoi? C'est Brassens? C'est...
Brassens, Moustaki.
Ah, il y a Moustaki, bien sûr. Oui,
bien sûr. Et puis un peu... j'ai eu le privilège de rencontrer John Baez très jeune. Elle m'a chanté Parachutiste, elle m'a vraiment aidé. C'est la seule américaine, la seule star américaine qui a compté pour moi.
Vous connaissiez John Baez, Nathalie Dessay? Vous avez rencontré tous ces gens, tous ces chanteurs contestataires?
Non.
C'est deux mondes quand même.
Le
classique et la variété, c'est deux mondes qui se regardent en chien de faïence depuis toujours.
Oui, c'est très étrange d'ailleurs, comme tout est tellement cloisonné.
Mais il y a des traits d'union de temps en temps, Nathalie.
Oui, la preuve.
Nathalie est un cas rare. Nathalie,
oui,
vous êtes...
Oui, parce que moi, je m'intéresse à plein de choses, donc je rencontre les gens, je finis par les rencontrer. Maintenant, ma communauté, c'est plutôt les jazzmen.
Vous avez pris le risque de transgresser quelque chose.
Oui.
Vous le regrettez aujourd'hui?
Ah, pas du tout.
Non?
Non.
Mais c'est difficile aussi.
Oui, c'est difficile. C'est difficile.
Vous considérez que vous êtes en train de rebâtir une identité? Comment vous...
Oui, c'est-à-dire, je suis en train de vivre enfin ma vie. C'est pas que j'ai pas choisi de chanter l'opéra, mais c'est vraiment un enfermement, quoi. C'est un sacerdoce. Donc, aujourd'hui, je me donne le droit de faire plusieurs choses en même temps et d'explorer le champ des possibles.
Mais expliquez-moi, si vous n'aviez pas tout arrêté en disant j'arrête, je change, je deviens comédienne, je laisse tout tomber, quelle aurait été votre carrière à l'opéra?
J'en sais rien.
Mais en bonne logique, ça se passe comment en général?
Bah, ça se passe que on vieillit plus ou moins bien.
Ouais.
Voilà. Et je sais pas, il y a une espèce de...
Vous seriez devenue marraine de l'UNICEF?
Peut-être.
Non, beaucoup sont devenues enseignantes.
Oui, c'est ça. Mais comme moi, j'ai pas la passion de la transmission, je n'enseignerai pas le chant.
Ouais. Et vous, Maxime, si vous arrêtiez un jour, qu'est-ce que vous deviendriez?
Légume.
Un légume.
Un légume. Oui,
vous êtes très loin d'être un légume, je vous rassure.
Je ferai rien, je regarderai un arbre pendant des heures et... D'ailleurs, je le fais déjà.
Je pense que vous continueriez l'un et l'autre à jouer. Parce que dans Jouer la comédie, Nathalie Dessay y a joué. C'est l'enfance qui vous travaille.
C'est l'enfance qui
vous
parle.
Vous êtes une grande enfant, en fait.
Oui, moi, je n'ai pas dépassé 5 ans et demi, je pense, au fond.
Alors, on atteint maintenant le moment important, bien sûr, c'est le moment des vacances. Puisque nous sommes, bien sûr, dans la période des vacances.
Tu veux que je te raconte un souvenir? Un souvenir, oh oui.
Si vous saviez ce qui m'est arrivé, j'en ai des choses à vous raconter.
Alors, votre plus incroyable souvenir de vacances. Je sais que c'est un peu un défi que je vous donne, et c'est le défi que je donne avec estivalitude tous les matins. Et donc, c'est vrai que on vit parfois des choses nulles en vacances et parfois des choses formidables. Alors, Nathalie Dessay, encore une fois, vous m'avez plongé dans le mystère puisque vous avez dit, je ne vous le dis pas, je vous ferai la surprise. Alors, Nathalie Dessay, nous vous écoutons.
Bon, alors, je savais pas trop quoi dire, et en même temps, si, il y a un été qui a compté parce que c'était un été... avec des vacances peut-être plus merveilleuses que les autres fois. Et puis c'était il y a peut-être une petite dizaine d'années. Et je pense qu'il y avait une sorte d'insouciance encore. Et que j'ai perdu aujourd'hui.
Ah, vous pensez avoir perdu cette insouciance?
Oui, mais bon, c'est pas grave.
Et les vacances, c'est ça, hein, c'est le moment où on est insouciant, c'est le moment où on s'amuse, où on se détend, où on est c'est bien ça. Tranquille. Maxime Le Forestier, vos vacances, alors là, j'avoue, elles sont géniales. Racontez-nous, c'est des vacances en corbillard?
Tout à fait, oui. J'avais acheté un corbillard hippomobile dans le village d'Anne-Sylvestre. J'avais un copain qui avait deux juments et qui savait pas quoi en faire pendant l'été parce qu'il avait loué le pré. Donc je lui ai dit, je vais m'occuper de tes juments. J'ai acheté une grande bâche dont j'ai recouvert le corbillard. Ça faisait un chariot western tout à fait crédible. Et j'ai attelé les deux juments. Et je suis parti de Lyon, je suis allé à Avignon. D'Avignon, je suis allé à Lourmarin. Et de Lourmarin, je suis revenu à Lyon avec Alain Ledouarin, mon guitariste de l'époque. Je m'étais rasé la barbe et j'avais gardé la moustache parce que c'était... je venais de découvrir que j'étais une vedette et que ça commençait à me peser. Et voilà, j'ai passé 2 mois... alors bon, les juments, il y en avait une qui était à peu près dressée, l'autre qui avait jamais rien fait. Et quand on est revenu, elle faisait les créneaux quand même.
Ah ouais, ah ouais. Donc vous l'aviez vraiment dressée là. Ah, et vous dites que vous n'étiez pas un baba cool.
Ah non, mais on peut pas être un baba cool avec des chevaux, dites.
Non, c'est très, du boulot. Hein.
C'est très sérieux.
Ah non, mais vous m'impressionnez terriblement. Ouais. C'était difficile. Il a dû faire mauvais, non? C'était.
Ah, il a tout fait, mais on dormait à tour de rôle dedans et dessous. Mais c'était à nos mesures quand même, le corbillard.
Et les gens vous reconnaissaient?
Non, pas du tout. J'avais juste la moustache et mais la plupart du temps, ce qui est extraordinaire, c'est quand on arrive quelque part avec deux chevaux, les gens nous accueillent.
Ah bah ouais, c'est génial.
On trouve toujours un pré, on trouve toujours à manger, on est sympathique quand on arrive. Il faut dire que le corbillard était beau.
Ouais, c'est une bonne idée de voyager en corbillard parce qu'on vous fout la paix en fait.
C'est tout à fait une paix éternelle.
Bah écoutez, voilà Nathalie, une idée pour les vacances cette
année. Oui, mais
je vais
m'en inspirer.
Vous allez partir en corbillard? Vous allez partir où d'ailleurs?
Là, cet été, ouais. Un peu à New York, mais ça c'est un peu pour le boulot, et puis un peu dans le sud, et puis un peu dans le Gers. Voilà.
Et vous?
Moi je vais partir quelques jours dans le Gers, et puis après je vais remonter chez moi et me préparer à mes concerts de l'année prochaine, parce que je commence à répéter au mois de septembre avec les musiciens, donc faut tout que je prépare.
Eh bien, merci infiniment Nathalie Dessay et Maxime Le Forestier. Vous avez tous deux fait preuve de beaucoup d'estivalitude. Alors Nathalie, vous êtes en pleine tournée cet été avec la pièce de Stefan Zweig, La légende d'une vie, mise en scène par Christophe Lidon. Le 25 juillet, vous serez à Fréjus, le 2 août à Gordes, le 4 à Ramatuelle, le 6 à Sisteron. Le 27 juillet, vous chanterez par ailleurs du Michel Legrand à Alicante. Et je n'oublie pas votre carte blanche à la scène musicale sur l'île Seguin, Boulogne-Billancourt, à partir du 13 octobre, entre autres. Elle a tellement d'actualité. Maxime Le Forestier, votre album « Paraître ou ne pas être » est sorti chez Polydor et vous démarrez enfin une tournée française, si je ne m'abuse, le 28 septembre. Alors vous pouvez bien sûr réécouter et podcaster cette émission sur le site de France Inter. C'est bien entendu Juliette Medevielle qui réalise Estivalitude. Je remercie Saad Merzak, Corinne Valente, Pierre Goulencourt et Astrid Landon pour leur concours. À la technique ce matin, Fabrice Desmaz. Notre boutique éphémère ouvre bien sûr demain à 9h sur France Inter.